RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. C'est tous les jours, c'est avec vous que l'on discute, que l'on débat au 32-16. En toute liberté, jusqu'à midi. Mehdi Guézard, patron de PME, est avec nous, tout comme le professeur d'économie Frédéric Farah et Barbara Lefebvre, qui est enseignante en histoire-géographie. Revenons sur l'affaire du lycée Maurice Ravel, vous savez, ce proviseur qui a décidé de quitter ses fonctions finalement pour raison de sécurité. Il avait demandé à une jeune fille d'enlever son voile, du coup derrière il s'est retrouvé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines menacé de mort.
RMC, les grandes gueules.
Alors c'est vrai que dans ces cas-là, ce genre d'histoire, ça résonne de manière dramatique, puisque l'on pense immédiatement à Dominique Bernard à Arras, ou à Samuel Paty, lui aussi, qui a été décapité. Sa sœur, d'ailleurs, à Samuel Paty, était l'invitée exceptionnelle ce matin d'Apolline de Malherbe, en direct sur RMC et BFM TV, et elle est revenue sur ce qui a été fait depuis l'assassinat de son frère Samuel.
Que depuis 3 ans et demi, le peu de progrès, le peu de prise de conscience de ce qui avait pu arriver à mon frère me pousse effectivement à être de plus en plus proactive pour effectivement qu'il y ait un sursaut quelque part de l'État de prendre la mesure corrective pour que de pareilles choses ne puissent plus arriver. Il y a eu une amélioration qui est visible puisque depuis l'attentat de mon frère, il y a eu beaucoup de professeurs, de principales, de proviseurs qui ont eu leur vie mise en danger. Il y a eu une réaction effectivement assez rapide, ce dont mon frère n'a pas bénéficié à l'époque.
Donc, on fait le lien, vous voyez, avec ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel, le proviseur qui a décidé de quitter ses fonctions. Et quand la sœur de Samuel Paty parle du sursaut de l'État, bien sûr, sursaut de l'État passe peut-être par le fait de porter plainte contre la jeune fille qui est à l'origine de l'incident avec le proviseur du lycée Maurice Ravel.
Oui, a priori, c'est une dénonciation calomnieuse, c'est pour ça qu'il y aura une plainte. Mais elle a raison, et c'est la sœur de Samuel Paty qui le dit elle-même. Il y a quand même du progrès, parce que dans l'histoire du lycée Maurice Ravel, tout de suite, l'institution s'est mise à défendre le proviseur. Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation, est même allée sur place, ce qui n'était pas le cas du temps de Samuel Paty. Donc on voit bien quand même qu'il y a du progrès, mais finalement, ça ne change rien. Puisque ce proviseur a quand même été menacé de mort, et ça s'est passé finalement en dehors de l'établissement, alors un peu devant l'établissement où des élèves se sont rassemblés, un peu excités d'ailleurs par une élue de la République comme Danielle Simonnet, qui est la députée LFI du 20e arrondissement, et qui, sans savoir précisément ce qui s'était passé, semblait tout de suite prendre fait et cause pour la jeune fille, donc accusant le proviseur de brutalité. Il y a aussi ce collectif contre l'islamophobie qui était monté au créneau. Mais sinon, ça s'est passé sur les réseaux sociaux, et donc même si Nicole Belloubet va sur place, même si ensuite le Premier ministre reçoit ce proviseur, les menaces de mort sont là, et ce sont ces menaces de mort qui font que ce proviseur, qui était à quelques mois de la retraite, préfère arrêter tout de suite. Et on le comprend, on se met à la place. On comprend qu'il a envie de se protéger. Il y a eu Paty, il y a eu Dominique Bernard. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas quand même trouvé, pardon, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas trouvé la solution pour sortir de ce problème.
Moi, je trouve que la solution ne peut pas passer uniquement par la voie juridique. Parce que bon, le gouvernement va le faire parce que c'était calomnieux. Est-ce que c'est ça qui...
On a retrouvé, pardon, je n'ai pas précisé, il y a un des harceleurs, enfin un de ceux qui ont menacé de mort, qui a été identifié et qui sera jugé prochainement. C'est un jeune homme de 26 ans d'ailleurs, c'est pas un lycéen, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le lycée Maurice Ravel.
C'est d'autant plus intéressant d'avoir cette information, parce qu'on voit bien que dans ce genre d'affaires, ça ne se limite pas à ce qui est du harcèlement sur les réseaux ou ailleurs, ou même d'éventuelles menaces ou intimidations extérieures. Si c'était juste quelque chose à l'intérieur de l'éducation nationale, c'est-à-dire c'est que des lycéens qui intervenaient, bon, on pourrait limiter l'affaire. Mais c'est pas le cas. Donc, en fait, l'action ne peut pas juste se réduire au fait d'engager des poursuites contre X ou Y. C'est tellement beaucoup plus large, et je crois que ça révèle encore une fois, pour la énième fois, la crise des institutions et la crise des principes ou des valeurs qui gouvernent ce pays. Et je pense que aujourd'hui,
et de l'autorité.
Et de l'autorité. Donc finalement, en fait, si on s'en tient qu'aux symptômes, ben on veut le soigner, mais dans le fond, ça reste le problème reste entier. Donc je crois que les déplacements de ministres, les actions en justice ou autres, bon, on peut être un intérêt, mais c'est un coup d'épée dans l'eau très largement. Donc je crois pas que c'est ça la réponse à un problème beaucoup plus vaste et qui va bien au-delà de mesures juridiques ou policières.
Barbara.
Que M. Attal annonce que l'État se joint à la plainte, bon, très bien. Ce qu'il faut regarder derrière, c'est la justice. Comment va-t-elle passer ? Parce qu'excusez-moi, mais si cette jeune fille se prend un petit sursis de rien du tout, comme ça a été le cas pour les élèves complices du terroriste qui a assassiné Samuel Paty, excusez-moi, mais moi, la justice, elle fait pas son travail.
Alors, elle a regretté que ça aille si loin, cette histoire. Elle a regretté...
Qui ?
Cette jeune fille. Elle a regretté les menaces de mort contre ce proviseur.
Ah ben oui, mais en même temps, avec les vidéos qu'elle a faites et les propos qu'elle a tenus et le mensonge
c'est
qu'elle a eu, et elle vit sur quelle planète ? Elle se doute pas que toute la nébuleuse frériste... Oui, bien sûr, en s'adressant au CCIF. Donc ça montre d'ailleurs à quel point parfois le fait de dissoudre certaines associations extrémistes de tous bords ne sert à rien. Tout comme on a, après l'attentat de Samuel Paty, le collectif Cheikh Yassine de M. Sifrioui, qui aujourd'hui est en détention provisoire, a été dissous. De ce genre de collectif, il y en a déjà plein d'autres et on les voit bien en activité en ce moment. Donc excusez-moi, c'est bien gentil de dissoudre, c'est bien gentil de porter plainte, mais derrière, que fait la justice ? Moi, je suis navrée, je reste absolument terrifiée à l'idée que les élèves, les six élèves qui sont à l'origine, parce que ce sont eux qui ont désigné Samuel Paty, le terroriste qui est venu, le Tchétchène qui venait de l'autre bout de la France, il ne savait pas à quoi ressemblait Samuel Paty. Ce sont des élèves qui ont fait le guet pendant des heures, qui lui ont parlé pendant des heures, qui ont accepté ses billets de banque. C'est eux qui ont désigné Samuel Paty et qui ont même accompagné le terroriste.
Ben, ces gens-là,
ils ont été condamnés à du sursis. Il n'y en a qu'un seul qui a été condamné à de la ferme, c'est celui qui faisait le guet. Et le ferme, de toute façon, s'est transformé en bracelet électronique. Et ce jeune, alors bien sûr, on va me dire, ah oui, mais alors, c'est un jeune, c'est un mineur. Je m'en fiche. Justement, il fallait montrer que là, il fallait taper fort et il fallait les mettre pendant quelques années dans des centres pénitentiaires pour mineurs. Ils auraient continué leurs études, ils auraient été bien cadrés, on leur aurait remis les idées en place, ou pas d'ailleurs, peu importe, mais en tout cas, on les aurait mis hors d'état de nuire et ça aurait envoyé un signal. Là, on envoie quoi comme signal ? Du sursis. Celle-là, elle aura du sursis. Parce que qu'est-ce qu'elle dira ? Ah, mais je pouvais pas savoir que derrière, il y aurait des menaces de mort. Elle sait très bien les réseaux fréristes derrière, elle sait très bien la haine islamiste, et je ne confonds pas les musulmans et les islamistes, mais elle sait très bien que cette minorité hyper agissante et hyper violente, c'est elle qui a la main sur les réseaux sociaux. Et comme vous avez en plus une masse
elle
de gamins...
Elle a quitté le lycée, elle n'est plus au lycée
oui,
d'ailleurs aujourd'hui.
Mais déjà, elle était déjà plus tellement... Elle supportait plus déjà son BTS. Mais comme vous avez en plus une masse d'élèves, alors là par contre, c'est pas la question de la religion, qui sont mais d'une crédulité, et alors qui sont eux aussi toujours dans la victimisation... Rumeur. Vous avez 60% des 18-25 ans qui considèrent que la loi 2004 sur la laïcité, elle vise à stigmatiser les musulmans. Ils comprennent rien à ce que c'est la laïcité. Moi, je suis prof d'histoire, en quatrième, en troisième. J'ai un programme scolaire qui me permet d'expliquer ces choses-là dans le temps et de leur expliquer les racines historiques de la question de ce que c'est la liberté de conscience. On est là pour émanciper les élèves, c'est-à-dire qu'ils puissent penser par eux-mêmes. Si ensuite, ils ont envie de se mettre sous bâche, d'aller vivre, d'être polygame de je ne sais quoi, c'est-à-dire de ne pas respecter l'égalité homme-femme et la liberté de conscience, grand bien leur fasse. Mais c'est pas comme ça la règle laïque.
Tu dis plus de sévérité de la justice.
Mais plus de sévérité de la justice, donc elle n'est pas là, la sévérité de la justice.
On verra dans cette histoire, Mehdi.
Déjà, le communiqué de l'Académie, est-ce que vous l'avez lu ?
Qu'est-ce que tu veux dire ?
C'est juste pitoyable, le communiqué de l'Académie qui te dit « le proviseur s'en va pour convenance personnelle ». Quand tu commences comme ça, Alain, Olivier, tu ne peux pas aller loin.
Oui.
Est-ce que tu caches la misère, tu dis pas les vraies choses, tu communiquais, voilà, ce professeur a été menacé de mort, a été menacé d'être tué, d'être assassiné, et il a préféré s'en aller. Voilà, et tu dis les choses, tu dis les termes.
C'est pour ça d'ailleurs que l'Atal le reçoit, à mon avis, parce que l'Atal, en le recevant, déjuge un peu l'Académie.
C'est pas normal que l'Académie fasse un communiqué. C'est pas logique, parce qu'ils sont en train, en quelque sorte, de vouloir camoufler la chose, de vouloir éteindre l'incendie. Non, c'est grave ce qui s'est passé. On est dans un pays où le corps enseignant a été attaqué plusieurs fois.
Donc, si c'est grave, il faut que derrière la sanction à l'égard de la jeune fille soit à la hauteur.
Mais exemplaire.
Ouais.
Mais il n'y a aucun doute là-dessus. Mais personne ne pourrait te dire que c'est pas une justice exemplaire et dure et stricte qui doit être faite par rapport à ces cas de figure. Les enseignants, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait les mêmes idéaux ou pas, mais ils sont là pour.
Mais quand tu vois le harcèlement, c'est le harceleur qui reste et c'est le harcelé qui s'en va.
C'est pas normal déjà. Ça, voilà. ça déjà c'est pas normal.
Mila, c'est elle qui a quitté l'école. Voilà. Mila, c'est elle qui a été ensuite une élève clandestine.
Je suis pas désolé, mais c'est vrai que si ton fils est emmerdé à l'école.
Ah ben c'est lui qui s'en va.
Mais même les parents d'élèves pour le protéger, le sort.
La nana qui a lancé justement cette histoire, tu l'expulses manu militari de l'établissement et tu fais un établissement à 30 kilos et j'en ai rien à foutre.
T'envoies un message.
Mais j'en ai rien à foutre. Je t'envoie son dossier en justice avec une sévérité terrible. Mais juste l'académie qui est le supérieur hiérarchique du proviseur. Tu dis non. Bah en fait le gars il est parti. Il avait envie de se rapprocher de la mer, donc il veut démissionner et il veut plus être proviseur d'ici pour convenance personnelle. Ou de la montagne, tu vois. Non, pas pour ça qu'il est parti, mon grand.
Frédéric, il est parti parce qu'il s'est fait menacer de mort. Frédéric, le problème c'est que on réagit toujours trop tard dans cette histoire. Recevoir maintenant le proviseur qui s'en va, c'est à la limite fallait le recevoir avant.
Non, c'est pas une fois qu'il dit, j'en peux plus, je m'en vais.
On fait de la com et c'est pas
du après coup.
Pardon, mais je termine dans cette histoire. Au début, on a dit bon, c'est parole contre parole, etc. Très vite, on s'est aperçu que la fille avait sans doute raconté n'importe quoi. Et il s'est rien passé pour elle.
Non, mais la ministre n'a pas été sanctionnée.
Et la ministre est venue quand même.
Je vais te dire, c'est pas rien. La ministre qui se déplace tout de suite dans l'établissement. Je peux te dire que fut un temps, personne ne se serait déplacé pour toi et on t'aurait dit ferme ta bouche. Là déjà, la ministre s'était déplacée.
Et en
preuve que quand la ministre se déplace, ça ne fait rien, ça ne calme rien.
Oui, ben c'est ce que je disais.
Donc inquiétez-vous de l'état de la France, excusez-moi.
Hein. Échappe à cette à ça en fait.
Mais c'est pour ça.
Les menaces de mort, elles continuent.
Non mais c'est pour cela que bien sûr on peut attendre de la justice qu'elle sanctionne sévèrement. Mais je ne crois pas que même avec des décisions successives demain, ça aurait un effet direct sur des individus en disant ah ben on va cesser de.
Et si tu chopes, pardon, mais le type qui a été chopé là, tu le prends et si tu lui mets du ferme, ça va calmer les autres
immédiatement.
Du vrai ferme, pas du bracelet électronique.
Les gens diront,
je vais peut-être
tu le prends, le gars déjà à 26 ans, qu'est-ce que tu fous dans un lycée?
Non, il est déjà
sur
les réseaux sociaux.
Tu vois, moi je crois qu'il était devant le lycée.
Non, il habite dans les Hauts-de-Seine.
Tu le prends et tu le mets en mandat de dépôt pendant 4 mois à l'intérieur, juste pour tourner le temps que son affaire soit jugée. Ça le fera réfléchir à deux fois, hein. Il fera pas le malin après.
Mais tu fais passer le message.
Oui, mais en même temps, on voit bien toute la lenteur de cette machine et la complication entre le rectorat, le ministère. Et le temps que les choses se mettent en place, c'est tellement
un
monstre à déplacer qui est considérable que le temps qu'il y ait réaction, sans compter aussi tout le climat global de méfiance. Aujourd'hui, les professeurs, au-delà même de ces questions de laïcité, depuis longtemps ont été lâchés, abandonnés, pour mille raisons. On les a accablés de tellement de choses que c'est un corps qui n'en peut plus.
Pourtant, tu doutes de la poursuite judiciaire. Oui. Tu dis que c'est pas forcément vers là qu'il faut aller.
Mais je dis, pourquoi je doute? Parce que je crois qu'une seule réponse judiciaire ou policière, c'est louper l'essentiel de l'affaire. Évidemment, les sanctions sont nécessaires, la justice doit passer, bien sûr. Mais comment on fait pour que cette question de la laïcité, cette question de la violence à l'école, cette question du harcèlement cesse? Ça pose des questions essentielles sur...
Oui, mais on va être bien d'accord. Le problème des réseaux sociaux est encore majeur. Je suis navrée. Samuel Paty, l'autre, là, même celui de Dominique Bernard, hein, il était complètement zinzin avec les réseaux sociaux. Les rumeurs, à chaque fois, les rumeurs qui frappent les enseignants, qui frappent même les élèves entre eux, c'est les réseaux sociaux. Donc moi, encore une fois, alors là, on a affaire à des adultes. Cette jeune fille était adulte et on a affaire à des adultes. Mais j'en ai marre d'entendre des parents qui nous expliquent qu'ils n'y peuvent rien, que leur gamin de 13, 14 ans soit exposé tout le temps aux réseaux sociaux. Mais qu'on fasse quelque chose aussi contre les réseaux sociaux. Je suis désolée, il y a un problème. Les parents doivent faire quelque chose, qu'ils arrêtent toujours de se défausser.
On est d'accord.
Et l'institution aussi doit faire quelque chose. Parce que c'est toujours, c'est pas nous. Bah oui, c'est jamais personne, quoi. On va pas aller chercher sur TikTok.
Non, mais déjà, si les cyber-harceleurs. Tu les attrapes.
Et
ce qu'on arrive à faire maintenant, pour reconnaître que maintenant on arrive à faire et que personne peut se planquer derrière un pseudonyme, on le chope. Si tu le prends, et si la justice est implacable, tu verras que ça changera. Et tu communiques là-dessus. Parce que pour l'instant, je pense que, sincèrement, beaucoup pensent que c'est l'impunité, que finalement tu peux raconter n'importe quoi et t'as pris un pseudo protégé.
Tu as vu les témoignages?
Non, il y a plus de protection.
Tu as vu les témoignages des profs du lycée Ravel? Ils disent que de toute façon, ils osent même pas en parler aux élèves parce que 90% des élèves du lycée pensent que le proviseur. a violenté cet élève. Donc le problème, c'est aussi la régulation des réseaux sociaux. Oui. Moi, je suis désolée.
La rumeur, ça a toujours existé avant les réseaux sociaux. La rumeur qui
brûle. Oui, mais la rumeur à l'intérieur, d'un lycée, c'est une chose. La rumeur dans toute la France, c'est autre chose.
Eh bien, voyez, la discussion est lancée. Est-ce que Gabriel Attal a raison aujourd'hui face à ses proviseurs qui sont menacés de mort? Alors, pour des affaires qui sont liées au port de signes religieux, au port du voile, est-ce qu'il faut que systématiquement, même, on peut généraliser, ça peut être une procédure systématique, dorénavant, que l'État attaque l'élève pour dissuader ceux qui ensuite veulent menacer de mort?
Et est-ce je que précise que s'il est mineur, ce qui n'est pas le cas de cette jeune fille, s'il est mineur, il faut attaquer les parents aussi.
Est-ce que, vous voyez, Barbara va un cran plus loin.
Excusez-moi, c'est eux qui autorisent leurs enfants à être sur les réseaux.
Le smartphone.
Est-ce que vous êtes d'accord, ça doit passer par la case judiciaire, ce dont doute un peu Frédéric Farah. 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Allez, GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story.
Oh.
Oui, ça tousse dans les GG, désolé. Mehdi, moi, n'arrive pas à faire passer ça.
Incroyable.
Malgré la chimie.
C'est justement
par les...
bah oui, mais à cause de la chimie.
Bah oui, mais...
Un peu d'huile essentielle de Ravintsara, déjà, ça t'aurait... Avant, ça t'aurait protégé, tu vois.
Ah bon?
Ah oui.
Et l'huile d'olive, moins?
L'huile d'olive, c'est bon aussi, mais...
Ah oui.
Le Ravintsara,
on soigne plutôt à l'huile d'olive, mais Mehdi à l'huile de vidange.
Et toi, tu mets pas comme moi le pchit-pchit sur la bonnette.
Voilà, 5W40.
Vous mettez pas le pchit-pchit antibactérien sur la bonnette du micro, moi, je le
mets. C'est pas faux.
C'est vrai.
Là, il y a 20 ans de microbes sur ces bonnettes.
Alors que sur le mien, il y a un pchit-pchit.
L'Académie des sciences a demandé à ce qu'on les lègue.
Oui,
là, il y a les microbes de Charles Magnin, d'Emmanuel Le Chip, de Nicolas Poincaré, d'Amélie de Malherbe.
Marc, ça forge ton immunité.
On me dit qu'il y a même Evin Thomas et Christian Spine.
On parle d'une autre époque d'RMC, les copains. Attendez.
Et de Casimir.
Aux vieux auditeurs.
Revenons à notre discussion sur les menaces contre les enseignants. Sur fond d'attaque de la laïcité, c'est Aurélien qui va en parler avec nous. Aurélien, qui est professeur d'éducation physique, il nous appelle de l'Ain. Bonjour Aurélien.
Oui, bonjour les GG. Bonjour
cette Aurélien. Cette affaire Ravel, ça vous touche d'autant plus que vous aussi, vous avez déjà été menacé.
Oui, enfin, ce que je disais, c'est que ça n'arrivait qu'une fois. Moi, c'est pas tant ça, c'est que on nous parle de soutien. Alors effectivement, il y a eu tout de suite la ministre qui est venue, donc on montre une part de soutien. Oui. Mais quand je vois un dépôt de plainte qui arrive plus d'un mois après, on apprend que le proviseur décide de partir, bah on a l'impression que c'est joué après coup en fait.
Ouais.
C'est soit on est derrière lui, on lui dit bah non, on reste, on montre que on est présent, on dépose plainte contre la personne et on avance quoi avec cette personne là, mais on le fait pas une fois qu'elle a décidé de partir. Enfin je trouve que c'est un peu facile de dire qu'on défend la personne.
La plainte arrive trop tard.
Voilà dans ce sens là.
Et est-ce que vous avez le soutien nécessaire au moment de votre histoire?
Moi, non, pas trop, non. Mais comme je pense pas mal de collègues.
Mais racontez-nous ce qui s'est passé.
Bah, il y a eu une histoire de vol dans un cours, du coup une altercation avec des élèves. Donc, en plus, on avait de la chance, nous on était à deux collègues, donc on a pu s'interposer. Un élève qui était très très véhément. Ça commence avec mon collègue. Après, du coup, moi, je viens prendre le relais pour essayer de calmer les choses. Puis ça s'est pas calmé. L'élève finit tête contre tête avec moi en me disant que il va me taper quoi, tout simplement. Je lui dis moi je suis prof, je bougerai pas, donc maintenant fais ce que t'as à faire, mais moi je bougerai pas. Et quand on a été voir notre direction, la réponse qu'on a eue, c'est faut pas utiliser la violence pour faire respecter l'ordre dans le cadre de l'établissement. On a dit mais nous on a rien fait du tout quoi. C'est donc voilà. Mais ce que je disais,
on vous a traité comme l'élève en fait. On vous a mis au même niveau que l'élève. C'est ça en fait le problème.
Bah ça a été un peu ça, sachant que
la hiérarchie
n'est pas respectée. Croisé quelques temps après, parce qu'il a été exclu parce qu'il y a eu d'autres choses ou quoi que ce soit. Et j'ai pas eu de problème derrière avec cet élève là. Mais c'est vrai que pendant 2-3 jours, quand il y a des menaces, on va pas forcément au boulot des plus sereinement. Après, on s'est recroisé avec l'élève, il y a rien.
Alors justement, Aurélien, est-ce que vous, au moment de cet incident, vous savez s'il y a eu des menaces aussi à votre encontre ou du dénigrement sur les réseaux sociaux ou pas?
Ah, c'était un peu plus vieux, donc.
D'accord. D'accord.
Je sais pas si ça a été sur les réseaux sociaux, mais Après, voilà,
parce que non, c'est ça, ça le problème aussi aujourd'hui, hein, pour vous et vos collègues. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux ensuite, quoi.
Enfin, j'ai pas eu écho ou quoi que ce soit. C'était le début des réseaux sociaux. Il y a pas eu.
Mais l'élève a été exclu aussi, donc il y a eu une sanction quand même contre l'élève.
Qui... Oui, mais alors pas par rapport à ce qui s'était passé avec nous, mais disons que ça a été en plus dans son dossier, qui au bout d'un moment a fait qu'il a fini par.
C'est pour l'ensemble de son œuvre.
Voilà, pour l'ensemble de son œuvre. Mais après, ce que je disais, c'est que ça fait quand même quelques années que. On est dans l'enseignement. Oui, il y a eu ça une fois, c'est arrivé, mais c'est pas ça. Enfin, pour moi, c'est pas ça qu'il faut retenir. Il y a quand même plein d'autres élèves qui sont pas du tout dans cette mouvance-là. Et c'est, on parle de ça. Ça mérite d'en parler et c'est d'accord. Normal parce que quand ça dysfonctionne. Mais il y a aussi un paquet d'élèves qui, enfin, je veux pas dire qu'ils nous soutiennent dans ces, enfin, si, qui nous soutiennent dans ces moments-là aussi. Hein, et c'est important aussi. Alors peut-être qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus à l'époque.
Merci Aurélien, merci de ce témoignage. Frédéric, vas-y.
Mais on voit bien, c'est extrêmement intéressant, c'est la réaction de son établissement. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'équivalence à la fin entre l'élève et le prof, et qu'on explique gentiment au prof, en gros... il n'a pas le bon comportement. Mais c'est ça qui est terrible. Dans cet univers-là que je connais bien, il y a énormément dans le rapport entre les directions et les collègues quelque chose d'infantilisation. Une forme d'infantilisation, mais qui est permanente et où des adultes regardent d'autres adultes qui ont peut-être que quelques années de différence, mais comme si, je sais pas, on était éternellement en seconde ou éternellement.
Certains profs aussi s'y complaisent.
Hein. Et s'y complaisent et ça. Et on a l'impression que c'est quelque chose de très infantilisant et c'est extrêmement pénible parce que on se demande si on s'adresse d'adulte à adulte ou en disant bon ben je crois que même si t'as 50 ans t'as toujours 15 ans.
C'est donc, ça.
Et on a envie de dire c'est bon quoi. Ça suffit quoi. Et on voit bien que toujours la parole du prof, bon bah c'est un peu suspect. On vit dans une époque où finalement qu'est-ce que les profs n'en finissent pas de supporter dans tous les sens et même de leur propre direction qui les prend pour des gosses.
Mais
c'est assez insupportable.
Il a tout à fait raison parce que ça participe de tout un système de mise en équivalence de la personne qui détient l'autorité.
Exactement.
Et cette autorité elle est légitime. Parce que on sait quelque chose et on apprend à un élève, d'accord? Donc on a une autorité légitime, ça veut pas dire l'autoritarisme. Moi, je l'avais déjà raconté, mais un élève qui était problématique, hein, il faisait du racket, du trafic, etc. Et comme je n'acceptais pas qu'il ne fasse rien et qu'il garde sa casquette, c'est monté en cacahuète, bref. Et il me dit, ferme ta gueule. Et moi, je lui ai dit, mais c'est toi qui vas fermer ta bouche. Et quand ensuite il y a eu le conseil de discipline, on m'a reproché de lui avoir dit « ferme ta bouche » parce qu'en fait, je n'avais pas été exemplaire. Je dis « mais attendez, je lui ai pas dit « ferme ta gueule ». Il me dit « ferme ta gueule » à moi, qui suis celle qui détient l'autorité. Et parce que je lui réponds juste « c'est toi qui vas fermer ta bouche », c'est moi qui ne suis pas exemplaire. Mais ça, c'est très important. Parce que je vois aujourd'hui, par exemple, ma fille qui est collégienne, d'accord, des profs qui ont parfois des mots un petit peu... on va dire un peu haut, qui sont parfois blessants dans leur façon de parler.
Ça arrive aussi.
Et il y a eu des profs qui ont dit des choses à ma fille que moi je trouvais déplacées.
Il y a des profs qui
mais
sont
jamais je ne lui ai dit, jamais je lui ai dit le prof a tort, etc. Je lui ai dit écoute, oui, peut-être que c'est pas agréable de l'entendre, mais tu vas prendre sur toi parce que c'est comme ça, parce que c'est le prof, et tu prends sur toi. Oui, peut-être que elle avait pas besoin de te dire cette chose-là, que c'est un peu brutal devant tout le monde, mais c'est pas grave. Tu prends sur toi. Et le fait d'apprendre à un enfant à calmer sa susceptibilité, à ne pas tout de suite se victimiser, à s'habituer au fait que oui, dans la vie, il y aura peut-être des gens qui auront un rapport d'autorité avec toi et qui vont peut-être un peu mal te parler, eh ben, tu vas supporter. Parce que si je l'encourageais et que je lui disais, ouais, t'as raison, on va écrire à la prof, elle a pas à te dire ça, etc., je l'encourage à penser que, en général, il faut toujours se mettre à équivalence avec les gens. Donc moi, je suis navrée, il y a des rapports d'autorité. Moi, demain, si je croise la ministre, c'est ma ministre, je ne vais pas lui parler comme si je parlais à mon copain lui taper dans le dos. Si je parle à mon inspectrice, je ne vais pas lui parler comme si c'était ma copine et lui taper dans le dos. Donc on a des rapports d'autorité, des rapports hiérarchiques, il faut les respecter. Et le fait que même l'institution nous explique que nous, on est à égal avec les élèves, ça crée un vrai trouble aussi chez les élèves et les parents d'élèves.
Est-ce que justement, aujourd'hui, je ne sais pas, en début d'année ou à chaque trimestre, il serait pas bon de rappeler une règle, une espèce de règle intangible.
J'ai un peu rappelé,
notamment maintenant avec ce que dit Gabriel Attal, et leur dire sachez que toute contestation, toute violence ou quoi que ce soit sera désormais poursuivie.
Ils veulent faire signer une sorte de charte.
Bah, oui.
Oui, mais on signe la charte de la laïcité, oui, on signe le règlement intérieur. Alors maintenant, on va signer une charte pour apprendre à être poli à l'hôpital.
En disant, bah, vous êtes susceptible d'être poursuivi, y compris en justice, tu vois.
Quand tu vas à l'hôpital.
Ah ouais, il y a un panneau.
Déjà, il y a. Mais je suis même. Tu n'as pas contact direct parce qu'ils ont gardé la barrière, la vitre, hein. Et puis, il y a un petit panneau qui dit, soyez poli parce que vous êtes filmé. Enfin, on est dans un monde de dingue.
Je vais même te dire mieux. Je suis allé il y a quelques semaines de ça. Dans une espèce de, tu sais, de cabinet de santé, tu sais,
groupé. Ah, mais il y a ça aussi dans les cabinets.
Et dans la salle d'attente, il y avait le panneau avec écrit toute incivilité, tout écart verbal sera désormais sanctionné. Et en dessous, il y avait écrit sachez que nos soignants sont équipés, tu sais, alors je ne vais pas citer le nom de la marque avec laquelle ils étaient en lien, mais susceptibles d'appuyer sur un bouton d'alarme, il y aura une intervention.
Mais donc ça veut dire qu'on a un problème de société, de comportement, d'incivilité
d'éducation.
Générale, d'éducation.
C'est l'éducation.
Et donc c'est pas seulement les enfants, c'est aussi des adultes.
C'est l'éducation qui fait les adultes. Je le dis, les parents, ils font leur boulot. Les enfants, tout ce qui se passe là, ça n'existe pas. Mais les parents ne font pas leur boulot. Les enfants sont laissés à l'abandon. Ils rentrent, ils vont, ils sortent quand il y a des heures, des profs qui ne sont pas remplacés. Ils ne savent même pas qu'il y a des profs qui ne sont pas remplacés. Ils errent dans les rues. Vous savez tous autour de la table. Comme quoi, les parents ont, pour la plupart, attention, je n'en fais pas une généralité, mais abandonné en quelque sorte leur rôle de parents. Et l'éducation, malheureusement, c'est le béaba. Alors, si les parents ne respectaient pas, comment le gosse il va respecter? Et tu sais, moi, ce qui me tue le plus, c'est quand je vois des parents qui engueulent le professeur devant le gosse. Tu vois, devant leur gosse, il vient, tu vois des réunions parents-prof où le père ou la mère de famille.
J'ai vu ça déjà.
J'ai déjà vu. Alors que moi, c'est une école, on va dire, chic. La maman n'a pas aimé une remarque que le professeur avait fait à sa fille. Elle l'a engueulé comme du poisson pourri devant tout le monde et surtout devant sa fille. Mais quelle autorité tu lui donnes, tu lui laisses au professeur?
Quelle image tu donnes?
Et après, c'est normal que les gamins finissent en roue
libre. Mais on va reconnaître une chose, c'est difficile aujourd'hui d'élever des ados. Parce que justement, dans ce contexte, avec les réseaux, etc., les crises d'ados aujourd'hui, ça demande de l'expertise parentale aussi. Et je pense qu'il y a des parents qui sont pas équipés pour
on
ça.
On va en parler avec Patricia, qui est retraitée de l'enseignement. Bonjour Patricia.
Oui, bonjour.
Parce que vous avez aussi une expérience personnelle à nous raconter.
C'est une expérience qui a déjà une dizaine d'années, vu que je suis retraitée. C'était un élève qui était en cours, à qui je demande de sortir ses affaires après au moins 10 minutes que le cours était entamé, qui refuse. C'était un élève qui devait se tenir particulièrement bien ou qui devait se tenir en tant que lycéen lambda, puisqu'il était, il avait été puni et sanctionné par un conseil de discipline en juin de l'année précédente. Donc il revenait, on va dire, à l'essai pendant un trimestre. Et ça ne lui a pas plu, ma remarque, ma demande. Donc il jette son bureau sur le mien. Donc ensuite, tout un pataquès, etc., etc. Total, il va chez le proviseur. Il se passe pas grand-chose. Le proviseur ne se souvenait plus que c'était un élève qui avait eu un conseil de discipline juste avant les congés d'été. Donc c'est un peu embêtant. Je suis moi-même allée porter plainte parce que avec une autre collègue, nous nous sentions en danger. La personne du commissariat m'a dit que j'avais bien fait, ce qui m'a vraiment soulagée parce que j'avais l'impression d'être un peu dans la délation vis-à-vis d'un lycéen. J'étais un peu là-dedans en fait, hein. C'était il y a une dizaine d'années, j'étais plutôt là-dedans en me disant est-ce que j'y vais, mais j'avais vraiment, là pour le coup j'avais peur. Et elle m'a dit vous avez très bien fait, c'est un élève qu'on connaît à l'extérieur du lycée et essayez d'éviter son chemin quand vous rentrez chez vous. C'était il y a 10 ans. Je pense qu'on parlait plutôt de coups de poing ou de choses comme ça à l'époque. Ouais. Quand on voit comment ça. Alors, pour revenir au sujet de Gabriel Attal qui dit que l'État, je voudrais dire que vraiment, je suis très contente d'entendre ça. On peut être effectivement défaitiste en disant ça servira à rien. Ça, c'est du constitutionnel. Il se peut que ça ne serve à rien. Il se peut que pour certains fragiles ou certains parents qui ont à cœur d'élever leurs enfants et les ados sont toujours sur une brèche, voilà, ils basculent d'un côté ou de l'autre, ça peut être très dissuasif. Il se peut que ça ne serve à rien, mais il se peut aussi que ce soit
dissuasif. Mais vous aimez quand même ce discours volontaire.
Bah oui.
Moi, oui. Oui, j'aime ce discours volontaire. J'aime ce discours volontaire qui consiste à dire il y a des limites. Et puis, alors la justice après va trancher. Elle va être un petit peu comme le corps enseignant en général.
Mais Patricia, vous avez donc eu affaire à ce pas de vague, quoi, en fait, c'est ça?
Ah bah complètement, oui, complètement. Et mais c'est un pas de vague depuis les années 2000. Moi, j'enseigne depuis... Enfin, j'ai 66 ans, donc j'ai enseigné par passion depuis les années 80. Le pas de vague, il a commencé en l'an 2000, quand les Twin Towers sont tombés.
Exactement, merci.
Et que nous a...
La minute du 11 septembre où moi j'étais en zone d'éducation prioritaire et j'ai eu toute une course qui faisait des hurrahs et tout le monde regardait les profs, la principale qui n'entendait rien. Je disais mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, il y a pas de problème. Ouais. Et ben voilà.
Alors moi dans ma classe, la minute du 11 septembre, j'avais deux salles juxtaposées pour faire cours dans les deux simultanément. Bon, ça c'était pratique. Et une élève m'a dit, madame, je veux pas absolument pas faire cette minute de silence. Elle l'a eu, vous voyez, en 2000. Elle a eu la... Voilà. Elle m'a dit, je veux pas la faire. Ben, je lui ai dit, écoute, tu ne la fais pas, c'est pas grave. Tu vas aller dans le couloir. Chose qu'il faut absolument pas faire. Elle s'est bien tenue dans le couloir. Mais ça a commencé à ce moment-là, la contestation. Et évidemment, j'ai remonté à mon proviseur l'incident. Il a considéré que c'était pas un incident, c'était sa liberté.
Oui, mais vous voyez, Patricia, moi je veux dire qu'on attend toujours tout du premier ministre, du ministre, mais c'est un phénomène plus global. C'est-à-dire que si le proviseur n'est dans le pas de vague, si au-dessus l'inspecteur de l'académie est dans le pas de vague, si l'académie.
Pas de vague. Écoutez, je vais vous expliquer l'histoire de monsieur. C'est pas tout le monde réagit. Quand monsieur Samuel Paty, j'ai travaillé à Conflans, non pas le lycée du malheureux Samuel Paty, mais le lycée d'à côté. Voilà, c'est une petite ville, on se connaît tous. Voilà, je vais être très rapide. Quand monsieur Samuel Paty a demandé à être protégé à sa direction, ça n'a pas été entendu, peu importe. Mais quand le proviseur reçoit une élève qui dit voilà, pendant le cours de Samuel Paty, j'ai entendu cela. Le proviseur, qu'est-ce qu'il fait? Il aurait dû regarder sur son ordi. Il a mis l'élève au 820, il peut pas savoir un tel, c'est normal, ça se comprend. Il est pas CPE. Il regarde sur son ordi. Et ben, écoutez, mademoiselle, vous, c'est pas votre professeur, monsieur Samuel Paty. Et comment ça se fait? Donc là, déjà, le proviseur, je me permets de le dire, il a été léger sur l'histoire. Il a été léger. Et quand ensuite, vous savez que quand vous êtes un parent d'élève, quand il y a des parents divorcés, c'est l'un qui rentre et pas l'autre, faut qu'il y ait deux autorisations. Là, c'est un parent d'élève qui rentre avec un tonton. Vous croyez que le proviseur a fait son job?
Qu'est-ce qu'il faisait là, le tonton?
Non, la principale du collège de Conflans-Sainte-Honorine, elle a convoqué le parent, le père à l'époque.
Elle a agi.
Elle a agi, elle a convoqué en lui disant, écoutez, votre fille ment puisque votre fille n'était pas en classe. Mais le problème, c'est qu'il est venu avec Sifrioui, qui était le collectif Cherkassine. Et là, c'est là qu'elle aurait pas dû laisser entrer quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'affaire. C'est-à-dire pourquoi elle a laissé ce type qui est un président d'association crépusculaire que personne connaît venir se faire le porte-parole. Merci. C'est là qu'elle a peut-être été faible. Mais
merci de votre témoignage. À l'époque. Patricia,
de lui faire son procès aujourd'hui.
Patricia qui dit, il y a au moins une démarche volontariste. Elle salue cette démarche volontariste. Elle qui a été confrontée, Patricia, à la contestation. Proviseur menacé, l'État poursuit l'élève. À votre avis, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tard? Bah, c'est un oui à 78,5%.
On parlait du pas de vague. Il y a un film qui est sorti cette semaine avec François Civil qui raconte ça. C'est un professeur qui est accusé à tort. Et c'est le pas de vague. Il faut effectivement ne rien dire. Et je sais pas si tu te souviens, il y avait les risques du métier avec Jacques Brel en professeur, qui avait été accusé à tort dans l'histoire par une jeune fille d'attouchement. Et à l'époque, la machine ne soutient pas Jacques Brel, au contraire, le broie.
Le pas de vague, en plus, il est doublé de ce qui est intéressant dans cette histoire.
C'est ancien, le pas de vague.
C'est l'histoire d'un professeur qui complimente une jeune fille sur sa coupe de cheveux et sa tenue. Et derrière, ce prof a le malheur pour lui, hein, à ce moment-là, d'être homosexuel. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce de campagne qui se met en place de dénigrement, de harcèlement. Et le réalisateur du film est le professeur. C'est lui qui a suivi. Et il raconte cette histoire. Et paraît-il, c'est un film formidable.
Et François Civil dans le rôle titre.
Dans un instant, est-ce que vous connaissez les enseignes normales? C'est une ancienne danoise de très bas prix. Les enseignes Action.
Elle cartonne Action.
Ah, mais elle ne désemplisse pas parce qu'aujourd'hui, plus les prix sont bas, vu l'inflation et les problèmes de pouvoir d'achat, plus on se tourne vers ces enseignes. Alors, vous-même, est-ce que vous y avez succombé? Alors que ce sont des produits qui sont fabriqués à très bas coût, hein. On le sait.
Non,
aussi.
Pas que.
Eh ben justement, j'attendais que Barbara nuance en disant.
J'y suis allée.
Pas que, parce qu'elle y va. Pourquoi non, ces enseignes ont la cote?
J'y vais pas, j'y suis allée.
Il y avait le président normal. Y maintenant,
oui,
il y a
allez, à tout de suite avec les GG pour en parler au 32-16.
RMC. L'avant-midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Les GG avec aujourd'hui Mehdi Guézard, patron de PME. Frédéric Farah, qui est professeur d'économie, et Barbara Lefebvre,
patron des fonctionnaires
d'histoire géo. Ça nous allez, manqué. Parlons des enseignes à très bas prix.
Pas.
RMC, les grandes gueules.
Oui, pourquoi est-ce qu'on parle de ces enseignes à très bas prix? Parce que d'abord, il y a toujours l'inflation, même si elle ralentit. Mais surtout, on remarque aujourd'hui qu'il y a des enseignes qui vraiment ne désemplissent pas et qui sont en train de faire un carton auprès des Français. Alors parmi elles, on a Action ou on a Normal. Donc alors ce matin, on a une grande discussion. Moi, j'avoue que j'avais pas entendu parler de cette enseigne alors, qui s'appelle Normal, danoise.
Je crois que c'est un peu plus cher qu'Action et c'est plus dans les centres-villes. Action, c'est le phénomène du moment, hein. C'est une chaîne néerlandaise. Il y a plus de 300 magasins qui ont été ouverts en 2023. Un chiffre d'affaires qui est dingue. Et en très peu de temps, Action est devenue l'une des marques préférées des Français.
28% de croissance, Action.
J'avoue que j'ai été voir, un peu réticent, et c'est vrai que tu te fais prendre, hein, très vite, parce que les prix, c'est moins de 5 euros. T'achètes des choses qui sont 50% moins chères qu'ailleurs.
Et que t'as pas besoin chez toi.
Alors c'est vrai que tu repars avec des choses, c'est un peu comme Ikea. Tu y vas pour acheter un sac poubelle et tu repars avec un coffre plein de trucs que t'avais pas forcément besoin, mais bon, tu les achètes parce que tu dis, ah ben c'est quand même pas cher. Donc, mais le pas cher, plus le pas cher, plus le pas cher, tu te trouves avec une facture importante. Il faut pas y aller avec des enfants parce que sinon, là, s'il y a plein de jouets, etc., donc t'es mort. Mais on peut comprendre, et puis en ces temps de pouvoir d'achat compliqué pour les Français parce qu'il y a eu la hausse des prix, et les salaires n'ont pas forcément suivi, bah forcément, Action tire son épingle du jeu. Alors, Normal, je ne connais pas. Qui connaît Normal ?
Moi, Normal, je connais. Moi, je suis allée une fois chez Action, j'ai trouvé que ce n'était pas propre. C'était vraiment sale. Donc moi, quand c'est sale, je n'aime pas du tout.
D'accord.
Les prix n'étaient pas chers, mais il n'y avait pas de marque. C'était vraiment, pour certains trucs, ce n'était vraiment pas de la bonne qualité.
Pas très beau non plus.
Ce n'était pas de la bonne qualité, ça se voyait. Normal, c'est autre chose. Normal, d'abord, c'est mieux rangé. Bon, après, moi, j'aime bien quand c'est bien rangé.
C'est ouais. Étonnant.
Oui, oui mais les petites boîtes, elles sont bien posées. Enfin, bon, bref. Et surtout...
mais ça veut dire qu'il y a un peu plus de personnel aussi.
C'est pour ça que il y a plus de personnel. Après, c'est un peu plus cher.
On a réussi à embaucher, là.
Mais vous avez des produits qui sont en réalité des produits achetés dans les centrales d'achat. Donc, vous avez des produits qui sont écrits dessus en danois, en polonais. Donc, voilà. Mais comme c'est une marque que vous connaissez, de toute façon, vous savez, la boîte, c'est l'après-shampoing dont votre fille a besoin. Moi, en l'occurrence, ma fille, elle utilise énormément d'après-shampoing pour soigner ses cheveux. Donc, du coup, les gros pots, ça part en deux secondes. Là, je les ai quand même pratiquement 30% de moins.
Ouais.
Donc, ça, excusez-moi, mais les cotons-tiges, moi, j'adore les cotons-tiges.
Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi?
Je sais pas, j'adore les cotons-tiges.
Ah, t'aimes bien de passer les cotons-tiges à les oreilles?
Ah, je m'en sers pour plein de trucs, les cotons-tiges. Les oreilles.
C'est pas bon tous les jours.
Non, et on a dit que c'est
pas
bon.
Moi, tu sais que je me suis éclaté un tympan comme ça.
Ah non, mais moi, je sais le faire. Mais bref, le coton-tige, c'est un truc. Même pour mon chien, le coton-tige, des fois, c'est un peu bon. Bref. Et donc, là, ils vendent du coton-tige à 0,80 centimes. C'est pas mal. Donc, ils vendent des choses. Moi, franchement, chez Normal, j'achète plus de choses chez Normal que. Non, Action, je connais pas, mais Normal, je fais des économies sur certains produits. Donc, oui.
Alors, par Normal, contre, Action. Voilà. Tu comprends, toi, l'économiste, le succès de ces enseignes?
Alors, je suis pas surpris, mais même pas 5 minutes, quoi. Dans la mesure où la vraie question pour moi depuis des années, c'est la question du niveau de vie. C'est la question du pouvoir d'achat. Et pour des catégories de plus en plus larges de Français, la situation se dégrade. Et elle n'a pas commencé à se dégrader avec l'arrivée de l'inflation. Elle avait commencé à se dégrader avant. Surtout quand on voit la part des dépenses contraintes qui ont considérablement augmenté. Donc forcément, les salaires ne suivent pas. Il y a une problématique de pouvoir d'achat. Moi, je pense que le hard discount de cette manière va continuer et de plus belle.
C'est en contradiction avec ce qu'on a dit ces dernières années en disant le low cost, finalement, ça tue la production française. Il faut mettre le prix. Il faut acheter de la qualité.
Oui,
aussi
oui.
Bien,
mais pour acheter de l'après-shampoing, l'après-shampoing, c'est
l'après-shampoing. On tient deux discours. Non, mais on voudrait faire du Made in France.
et on se
mais si les gens n'ont pas de pognon pour acheter du Made in France, Olivier,
c'est pas un jugement, c'est
des gens qui veulent juste manger.
J'ai déjà acheté,
c'est pas un jugement, je pointe du doigt des injonctions contradictoires dans ce pays. On nous explique le Made in France, l'industrie, la production française. Il faut aider et ça fait de l'emploi et puis finalement
mais bien sûr
pour des raisons tout à fait valables, on se précipite et on achète des produits, on s'en fout de l'origine, ce qui compte c'est pas cher.
C'est vrai, mais je vais te dire une chose, moi pour ma fille, j'ai pendant longtemps acheté de l'huile de coco bio et du beurre de karité bio pour les cheveux, etc. Bah, vu ce que ça coûte et vu la fréquence, à un moment donné, tu préfères alterner avec des après-shampoings moins chers.
Mais je vais aller dans ton sens et je sais que c'est pas un jugement. Et ce qui est intéressant, ce que vient de dire Barma à l'instant, c'est d'où ça vient. On a dit que certains, ça venait d'ailleurs en Europe. Donc,
De toute façon, c'est Unilever et compagnie, ces après-shampoings.
Voilà. Bon. De toutes les manières, je crois que si l'on veut favoriser le Made in France, et en fait, il n'y a pas 150 000 façons. Alors, soit on écrase nos salaires et on réduit notre protection sociale parce qu'on raisonne en termes uniquement de coûts, donc là, on se dit, si on veut essayer de concurrencer nos voisins européens, je parle pas, c'est-à-dire d'une partie de l'Europe centrale orientale, alors on démantèle tout le modèle social. Soit, deuxième option, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc on fait des salaires de plus en plus bas et on écrase des salaires. Soit, si on veut défendre le Made in France, il faut que les salaires suivent derrière. Sinon, on peut pas défendre une filière française qui sera toujours beaucoup plus chère qu'ailleurs.
Mehdi ? Moi, j'aime bien quand on me parle de Made in France à des personnes qui n'ont même pas de quoi remplir leur caddie.
Les gens,
à un moment, je vous le dis, ils ont envie de remplir leur caddie. Et le Made in France, ça passe après. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on remarque tous que dans des zones qui sont pas trop loin de nos villes, il y a de plus en plus de magasins de déstockage. Ils sont en train d'ouvrir les uns après les autres. Tout ça, c'est dû à une demande. Les gens en ont marre de payer le prix fort dans des grandes surfaces classiques comme Auchan, Carrefour, là, où leurs promotions ne sont pas véritablement des promotions. Attention, quand vous voyez généralement les 4 paquets à tel prix, généralement, il y a une arnaque derrière. Hein. Je pense que
c'est le vrai prix. Jacques Maillot disait toujours, soldé, c'est le vrai prix.
Voilà. Donc à un moment, les gens ont besoin d'avoir leur caddie rempli avec des prix qui sont compétitifs. Et c'est pour ça que ces enseignes-là, que ce soit Action ou Normal, ils ont un bel avenir devant eux.
Tiens, on a une employée de chez Action qui s'appelle Benz. Bonjour Benz.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, quel type de clientèle vous avez dans le magasin justement alors aujourd'hui?
Moi, pour préciser, je travaille depuis un an et demi, un peu plus d'un an et demi à Action dans le Var. Mm-hmm. Et on va dire que c'est principalement tout type de clientèle. Hein. Ça peut être, désolé des termes, mais ça peut être des personnes vraiment en précarité, voire des personnes qui ont de la thune, quoi.
Oui. Et alors, elles font juste le minimum ou elles repartent avec plein de choses?
Comme avait dit Olivier Truchot, des fois, la plupart du temps, c'est on rentre pour un truc, on ressort le caddie plein.
On ressort le caddie plein, ouais. Et des choses, la moitié, on en a même pas besoin, j'en suis sûr.
Expliquez-moi, Benz, pourquoi... Benz, pourquoi
il a bugué sur Benz. Hein. Il a bugué, Olivier Truchot, sur Benz. Excusez-nous, hein. Il a 63 ans. C'est un prénom jeune, Benz.
Vous me direz ?
Allez-y, Benz, écoutez pas.
Il a répété encore Benz, tu vois ce que je veux dire.
Il est obsédé par les fonctionnaires ce matin, je sais pas ce qu'il arrive.
Benz. Alors, ceux qui viennent, justement, c'est vraiment pour les prix, c'est ça ?
C'est ça. C'est vraiment, comme disait Olivier, c'est vraiment pour. On rentre pour 2-3 bricoles. Au final, c'est pas cher. Et le c'est pas cher, Benz a des fois des cas de 150, voire plus, arrivés en caisse.
Mais Benz, on est bien d'accord que, on va dire 30 à 40% des produits qui sont à l'intérieur ne sont pas d'une nécessité absolue. Que c'est l'attrait du prix qui fait acheter la personne.
C'est ça.
On a l'impression de faire de bonnes affaires.
On a l'impression que tout est gratuit, quoi. Attention.
C'est ça, même moi, la première, quand je travaille avec, je suis amenée des fois, en fait, à mettre en nouveauté ce qu'on reçoit en nouveauté en rayon. Et je me dis, c'est joli. Donc, je regarde le prix et je me dis, c'est pas cher. Bon, je vais mettre de côté. Et du coup, à la fin de la journée, je me retrouve à travailler, mais à faire mes achats et à ressortir des fois avec,
bien sûr.
Des paniers de 40
mais voyez, Benz,
Vous venez,
alors vous n'avez pas la nécessité.
En fait, tous ceux qui viennent chez vous, c'est surtout pour les prix. Du coup, ils achètent plus. Et que c'est tout type de clientèle. C'est-à-dire, ça va ceux qui sont dans la précarité à ceux qui ont les moyens. Et pendant notre discussion...
Normal s'installe dans les centres commerciaux, et y compris dans les centres commerciaux, alors, un peu chic.
Bien sûr. Tu vois, Joël Dagosseri, notre coach de vie, qui c'est Miss Shopping, elle nous dit, mais moi, je suis une experte de Normal, c'est devenu mon magasin. Elle me met, c'est la vie avec 3 points d'exclamation. Vous voyez? Alors, merci à Benz qui travaille chez Action.
Merci Benz.
Expliquer le succès. Est-ce que vous avez attrapé le virus du hard discount? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Alors, c'est quand même un nom. 58,8. Mais enfin, si l'hard discount capte 41% de la clientèle.
C'est déjà pas mal.
Je pense que c'est déjà pas mal. Dans un instant, on va continuer de s'intéresser à ce qu'on a dans nos caddies. Puisqu'il y a cette enquête du FC Que Choisir. Les plats préparés. Écoutez bien, les plats préparés. 69% des origines des ingrédients sont inconnus. Est-ce que vous êtes scandalisé? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.